Vendredi 29 mars 2019 et voici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse. Avec vous pour les 90 prochaines minutes, François Brodeur. Je ne suis cependant pas seul puisque Mathieu Tessier m'accompagne en régie et à la mise en onde de cette émission. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour. Si je voulais commencer par la première chose qui est celle de débuter, je dirais en fait que c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'allaitement.
Ah bon?
Encore.
Je me sens un peu exclu.
Cause de débat, ben, moi aussi. Cause de débat toujours dans notre société d'aujourd'hui. Mais si je remonte en 1673, un arrêt interdisant aux catholiques les fonctions publiques entre en vigueur en Angleterre. Si je vais en 1778, l'explorateur James Cook débarque à Nootka, aujourd'hui Vancouver. 29 mars 1845, adoption d'une loi de l'instruction élémentaire au Bas-Canada qui établit, entre autres, des commissions scolaires locales. 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique est adopté à Londres, créant la confédération formée par l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, et l'acte entrera en vigueur le 1er juillet. 1886, en Géorgie, le pharmacien John Pemberton concocte une nouvelle boisson.
Le Coca-Cola.
Et voilà. 29 mars 1922, à Sainte-Anne-de-Beaupré, la basilique est ravagée par le feu. 1950, toujours en 29 mars, une loi est adoptée à Québec sur les publications et la morale publique. Et c'est aussi la création d'un bureau de censure.
Et ce fut une catastrophe pour le milieu des arts à cette époque-là au Québec.
1971, en Californie, Charles Manson et ses adeptes sont condamnés pour 7 meurtres commis chez l'actrice Sharon Tate et les époux LaBianca à l'été de 1969.
Ce qui est encore plus pathétique, c'est que Sharon Tate, à ce moment-là, était enceinte de 7 mois. Mmh. Il y a d'ailleurs un film ou une série qui va sortir incessamment sur le sujet.
OK. Mmh. 1973, les États-Unis ou les USA se retirent du Vietnam après une intervention de 8 ans durant cette guerre. 1988, un incendie au consulat de l'Union soviétique à Montréal fait 3 morts. 29 mars 1990, l'avortement devient légal en Belgique. Et en 1992, le candidat démocrate Bill Clinton affirme « J'ai fumé, mais je n'ai pas inhalé » ou « pas inhalé » concernant son usage passé du cannabis. Et pour ce qui est des naissances, c'est la journée d'anniversaire de Pauline Marois, 30e première ministre du Québec.
Et première femme élue à ce poste dans l'histoire du Québec, il faut le signaler.
Oui, elle est née en 1949 et Karl Orff est décédé un 29 mars en 1982. C'est un compositeur allemand.
Et voilà. À qui on doit Carmina Burana.
Tout à fait. Je voulais le faire jouer ce matin, mais c'est un peu trop long.
Merci Mathieu.
Ça fait plaisir.
L'actualité d'aujourd'hui est largement dominée par une seule, j'appellerais ça une non-nouvelle, voyez-vous, parce qu'on la voyait venir. Le projet de loi sur la laïcité déposé à Québec, c'était tellement pas une surprise qu'à peu près tous les éditorialistes et chroniqueurs au Québec se sont fendus de quelque chose sur le sujet. Ils étaient prêts, les stylos étaient aiguisés, c'était écrit d'avance. Bref, on va y revenir, mais abondamment pendant cette émission. Mais pour tout de suite, on va commencer avec la presse et un tout autre sujet. La population de Montréal franchit le cap des 2 millions d'habitants. C'est Pierre-André Normandin qui en parle. La population de l'île de Montréal vient de franchir le cap des 2 millions d'habitants avec 3 ans de retard. Les résultats du recensement de 2016 ont forcé à réviser à la baisse la population québécoise, révision qui a tout particulièrement touché la métropole. Les plus récentes projections évaluent toutefois que la croissance de Montréal a grandement accéléré. 96 000 Québécois disparaissent. L'Institut de la statistique du Québec a publié hier sa plus récente estimation de la population de la province, désormais évaluée à 8,4 millions d'habitants. Au passage, elle a annoncé avoir dû procéder à une révision majeure des données publiées depuis 2011 à la suite des résultats du recensement de 2016. L'exercice mené par Statistique Canada a en effet déterminé que le Québec comptait 96 000 habitants de moins que le nombre estimé. Ce n'est pas rien, souligne Martine Saint-Amour, démographe à l'Institut de la statistique. OK, dans la catégorie « Le mauvais move politique du jour », la palme revient, mais quoi qu'on pourrait parler de l'ensemble de son œuvre, à Donald Trump, voilà. Face au tollé, Trump rétablit le budget pour les Olympiques spéciaux. Ça nous vient de l'agence France-Presse. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi le rétablissement du budget fédéral destiné à l'organisation Special Olympics, chargée de programmes sportifs pour enfants et adultes handicapés mentaux. L'annonce par la ministre de l'Éducation, Betsy DeVos, celle-là même qui était pour le port d'armes à l'école, au cas où il y a des ours qui entreraient dans l'école, voyez-vous, c'est super important, de la suppression de l'enveloppe de 17,6 millions de dollars destinée à cette structure qui organise en particulier des Jeux internationaux, avait suscité une véritable levée de boucliers à travers les États-Unis. Les Special Olympics seront financés, je viens de le dire à mes équipes, a déclaré M. Trump depuis les jardins de la Maison-Blanche. Je suis allé aux Special Olympics. Je pense que c'est incroyable, a-t-il ajouté. L'organisation a été créée en 1968 aux États-Unis par une sœur du président Kennedy, Eunice Kennedy Shriver. Les derniers Jeux Special Olympics viennent de se dérouler à Abu Dhabi en présence de plusieurs milliers d'athlètes du monde entier. Allez, premier commentaire en matière de laïcité, celui de Rima El-Khoury. Trop, c'est comme pas assez. Si l'objectif était de mettre fin au débat sur les signes religieux dans un esprit rassembleur, c'est malheureusement raté. Le projet de loi sur la laïcité déposé hier à Québec crée plus de problèmes qu'il n'en règle. Mais commençons par les fleurs. Après avoir dit qu'il n'était pas question de toucher au crucifix à l'Assemblée nationale, le gouvernement Legault a eu la sagesse de se raviser. C'est à l'unanimité qu'une motion a été adoptée hier à l'Assemblée nationale pour que le crucifix soit retiré du Salon Bleu une fois le projet de loi sur la laïcité adopté. Après plus d'une décennie de débats à ce sujet, en 5 minutes, c'était réglé. Le crucifix sera décroché pour être mis en valeur dans l'enceinte du Parlement. Amen. C'était donc aussi simple que ça. Certains y ont vu un geste de compromis opportuniste pour mieux faire passer les atteintes aux droits individuels de minorités religieuses du projet de loi sur la laïcité. S'il va de soi qu'il y a là des considérations stratégiques pour éviter des accusations de catho-laïcité, j'y vois avant tout de la cohérence. Le gouvernement ne peut plaider sérieusement que la nation québécoise a un attachement particulier à la laïcité de l'État sous un crucifix placé par Maurice Duplessis à l'Assemblée nationale, précisément pour rappeler l'alliance entre l'Église et l'État. Cela dit, il ne suffit pas de décrocher un crucifix pour bien accrocher un projet de loi sur la laïcité de l'État qui soit cohérent. Le défi du gouvernement caquiste était de taille. Après des années de laisser-faire des libéraux et la tentative de trop en faire des péquistes, il fallait trouver un juste équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs. Il fallait surtout agir de façon responsable pour retrouver une certaine paix sociale au terme d'années de débats qui ont laissé beaucoup de cicatrices. Même si le Québec est déjà laïque dans les faits, je ne suis pas de ceux qui croient que légiférer en ce sens est inutile. Bien sûr, il y a plus urgent que d'interdire le port de signes religieux à des juges et des policiers qui, de toute façon, n'en portent pas. La laïcité de l'État n'est pas menacée, il n'y a pas péril en la demeure. Et toute cette énergie déployée à discuter de voiles, de crucifix et de kirpans depuis une douzaine d'années aurait certainement été mieux dépensée si on l'avait consacrée aux enjeux environnementaux autrement urgents. Tout ça est vrai. Cela dit, même si le problème de la laïcité au Québec est en grande partie une construction politique et médiatique, on ne peut nier qu'il est désormais bien réel. Il affecte notre climat social. Là aussi, il y a eu un certain réchauffement, si je puis dire, ou peut-être faudrait-il plutôt parler d'échauffement. Les causes humaines sont connues, elles sont complexes et on doit aussi s'en occuper. Que l'on parle du climat social ou du climat tout court, se comporter en climato-sceptique comporte toujours des risques. On en parlait la semaine dernière, la gentrification à Hochelaga fait changer le quartier de catégorie sociale avec le résultat qu'à l'école, les contributions ne sont plus les mêmes pour les enfants défavorisés. Ça provoque de la grogne. Jenny Gosselin nous en parle dans la presse. Rassemblement pour garder les dîners à 1 $ dans les écoles. Faites votre part. Nos assiettes sont vides, ont scandé les parents, habitants du quartier de Pointe-Saint-Charles et travailleurs communautaires devant l'école primaire Charles-Lemoine. Des dizaines de personnes se sont rassemblées à la sortie des classes pour demander de maintenir les dîners à 1$ pour les familles défavorisées à l'automne prochain. Comme 13 autres écoles à Montréal, Charlemagne a grimpé dans le classement de défavorisation des établissements scolaires. Résultat, elle ne se qualifie plus à compter de l'automne pour les repas du midi subventionnés à 1$. Ça veut dire que des enfants qui paient 1$ pour dîner à l'école devront payer 5$ pour le repas, plus 3$ en frais de garde du midi, a expliqué Camille Trudel, porte-parole d'Action Gardien, un organisme communautaire. C'est une somme importante pour plusieurs familles. C'est le comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal qui donne les enveloppes aux commissions scolaires en fonction de l'indice de défavorisation des écoles. Celui-ci est calculé selon le revenu des familles dans un secteur donné. Or, des organismes communautaires dénoncent l'embourgeoisement de certains quartiers traditionnellement moins nantis et surtout l'effet sur les gens moins fortunés. Depuis le recensement de 2016, il y a des familles avec plus d'argent qui s'installent dans le quartier, note Mme Trudel. Pour elle, ça veut dire qu'un enfant traîne le bagage socio-économique de son voisin. En éditorial dans la presse, Paul Journet s'intéresse, lui, à la tentative de l'Église catholique de nettoyer, passez-moi l'expression, son backlog en matière d'agression. Alors, ni vérité, ni réconciliation. L'audit lancé par le diocèse de Montréal ne suffira pas pour mener à la vérité ni à la réconciliation. Mardi, un groupe de 5 diocèses mené par celui de Montréal a lancé un audit sur les agressions sexuelles. 4 autres diocèses prévoient les imiter. Le but, dénombrer les agresseurs et les victimes depuis les années 50. C'est un geste louable, mais il arrive un peu tard. Si le but était de faire toute la lumière et de demander pardon, le diocèse aurait consulté les victimes, autant pour le choix du mandat que celui de la personne qui l'exécute. Il est inusité qu'un accusé dirige sa propre enquête. C'est ce qui se passe avec cet audit. Première source d'irritation, il ne concerne pas les congrégations, qui géraient entre autres les écoles catholiques. Pourtant, c'est là que se serait déroulée la majorité des agressions sexuelles. On comprend qu'un diocèse n'a pas de juridiction sur une congrégation, mais les victimes se fichent des flèches sur l'organigramme du catholicisme. Malheureusement, elles n'auront pas de portrait complet. Pourquoi ne pas avoir essayé d'élargir la démarche? Seconde source d'irritation, le choix de la personne qui pilote l'audit. Anne-Marie Trahan, cet ex-juge de la Cour supérieure a une expertise en droit de l'enfance, mais les groupes de victimes soulignent qu'en tant que membre de l'Ordre de Malte, un groupe catholique, Mme Trahan est une amie de l'Église. Nous ne doutons nullement de son intégrité, mais dans un dossier si sensible, il aurait été préférable de valider le choix avant de l'annoncer. Ah, même la mairesse de Montréal nous parle de laïcité. Laïcité, Québec s'engage sur une pente glissante, déplore Plante, un texte de Pierre-André Normandin. Très préoccupée par le projet de loi sur la laïcité, la mairesse Valérie Plante estime que le gouvernement du Québec s'engage sur une pente glissante en contournant les chartes des droits et libertés. Saluant certains assouplissements introduits, elle demande à Québec de laisser au service de police de la ville de Montréal de décider lui-même du port des signes religieux chez ses agents. Pendant ce temps-là, la presse canadienne rapporte que la CAQ, elle, surfe sur les sondages en matière de laïcité toujours. Sondage de la CAQ, oui à l'interdiction des signes religieux. Un sondage réalisé quelques jours avant le dépôt du projet de loi 21 sur la laïcité par le gouvernement du Québec démontre qu'une majorité de la population est favorable à l'interdiction des signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité. Et cet appui-là passe à 69 % pour les enseignants et les directeurs d'école. 67 % pensent de même que les éducateurs en garderie devraient aussi être forcés de ne pas porter de signes religieux, ce que ne prévoit pas la loi dans l'état actuel. Enfin, 35 % des gens souhaitent qu'un droit acquis soit accordé aux personnes qui portent déjà un signe religieux.
Ich kann nicht mehr zu Hause sein. Hast du gemerkt, etwas ist los? Ich glaube, es ist Zeit für Liebe. Ich nehm dich mit in meinem Transform-Car und halte dich in meinem Arm. Wenn du wieder aussteigst, bist du ein anderer. Dein Blick ist weich und warm für Liebe. Liebe. Hol dich aus dem Gefängnis raus, hier in die Prärie. In meinem Rudel ist noch Platz, Cherie, für Liebe. Da, da, da. Liebe.
Zweiraum Wohnung, la chanson Liebe.
Et on passe directement dans le devoir et à la caricature du jour de Pascal. Pascal qui, devinez quoi, nous parle aussi de laïcité. On y voit le premier ministre Legault qui pointe un bio du doigt et qui dit « On va faire ça calmement ». Et en discutant et en étant ouvert au compromis. Si vous avez des contestations judiciaires à faire, présentez-les ici sur le bio. Et évidemment, pendant ce temps-là, il tient dans son dos un immense maillet où il est écrit « Disposition de dérogation ». Voilà, ça dit tout. On enchaîne, oui. Et toujours en parlant de laïcité avec l'éditorial de Robert Dutrissac, qui y va quand même de manière assez nuancée. Son propos est assez intéressant. La laïcité de l'État, un projet de loi légitime. Le gouvernement caquiste a déposé le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, dont les grandes lignes étaient connues et qui reste fidèle à son engagement électoral. Soulignons d'emblée le souci de cohérence du gouvernement Legault, qui a présenté une motion afin de retirer le crucifix du Salon bleu de l'Assemblée nationale pour le déplacer ailleurs dans le Parlement. Comme prévu, le projet de loi 21 interdit le port des signes religieux. Ils n'ont pas besoin d'être ostentatoires aux employés de l'État en autorité, ce qui comprend les enseignants et les directeurs d'école, mais non pas les éducatrices, tant en garderie que dans les services de garde à l'école. Tous les employés qui exercent un pouvoir de coercition ou de sanction sont visés, les policiers, les agents de prison, mais aussi toute une liste d'agents de la paix, de régisseurs, de commissaires, d'arbitres qui exercent pareil pouvoir. Sagement, le projet de loi laisse au Conseil de la magistrature le soin d'établir les règles relatives à la laïcité de l'État pour les juges de la Cour du Québec et des cours municipales. Le gouvernement caquiste a accepté d'inclure une clause de droit acquis qui veut que les enseignants embauchés avant le dépôt du projet puissent arborer un signe religieux. C'est moins par grandeur d'âme que pour s'éviter l'odieux politique de congédiement et aussi pour répondre aux exigences du Parti québécois. Quoi qu'il en soit, cela s'imposait. Le Devoir estime que le gouvernement aurait dû limiter l'interdiction aux seuls agents de l'État qui exercent un pouvoir coercitif, un compromis qui émane d'une recommandation de la commission Bouchard-Taylor. Le projet de loi, une fois adopté, risque d'accentuer le clivage entre Montréal et le reste du Québec. Déjà, la commission scolaire English Montreal a indiqué qu'elle ne respecterait pas la loi et la Fédération autonome de l'enseignement, qui compte des dizaines de milliers de membres dans la région de Montréal, a déterré la hache de guerre. Cela dit, le projet de loi est une avancée majeure. Il propose une véritable définition de la laïcité québécoise qui dépasse la seule neutralité religieuse de l'État à laquelle s'était limité le gouvernement libéral avec l'adoption du projet de loi 62. D'abord, le projet de loi 21 édicte que l'État du Québec est laïque, un mot qui ne figure dans aucun de nos textes de loi. Outre la neutralité religieuse, il affirme trois autres principes de cette laïcité qui fait un tout, soit la séparation de l'État et des religions, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, et enfin la liberté de conscience et la liberté de religion. Surtout, il inscrit cette laïcité de l'État à l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Les libertés et droits fondamentaux s'exerceront non seulement dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens, mais aussi dans celui de la laïcité de l'État. On abroge des pans de la loi 62, notamment son article bancal qui a été suspendu par la Cour supérieure. Il est précisé qu'un citoyen ou une citoyenne devra découvrir son visage seulement lorsque nécessaire pour son identification ou pour des motifs de sécurité. Bref, on remplace un article inapplicable et contestable par un autre qui tient la route. Avec son projet de loi 21, le gouvernement caquiste ne fait pas l'unanimité, mais il s'agit d'une tentative légitime de proposer un modèle de laïcité qui, selon son appréciation, fait consensus au sein de la population. En ce sens, c'est mieux que les libéraux qui ont accouché d'une loi minimaliste dont le seul article qui change l'état du droit est inapplicable. Dans cette optique, il est légitime pour le gouvernement Legault de recourir aux dispositions de dérogation qui font partie intégrante des deux chartes. Sans ce recours, la loi pourrait subir le même sort que la loi libérale. Ainsi, la loi pourra produire ses effets. Certes, elle restreint des droits individuels, mais c'est pour accomplir un objectif de paix sociale, dont le pouvoir politique dûment élu doit se soucier. Ce projet de loi est aussi affaire de liberté politique. Il affirme que la nation québécoise a des valeurs sociales distinctes. Ce sont les mots de la Cour suprême dans le jugement Nadon, et un parcours historique spécifique l'ayant amené à développer un attachement particulier à la laïcité de l'État. Bref, qu'en cette matière, cette nation peut aspirer à un modèle différent de celui du reste du Canada. Affaire Boeing, Éric Desrosiers s'intéresse à la certification des avions. La FAA et Boeing, une histoire bien connue. Les pouvoirs publics aux États-Unis ont commencé l'ouverture et l'analyse de leur propre boîte noire pour comprendre ce qui est allé de travers dans la certification des nouveaux appareils 737 MAX de la compagnie aérienne Boeing pour qu'on leur permette de prendre leur envol en dépit de défauts de conception et pour qu'on soit aussi les derniers dans le monde à ordonner qu'ils soient cloués au sol après que ces défaillances ont mené à 2 écrasements et 346 morts. Différents comités du Congrès ont commencé cette semaine à entendre des témoins en même temps que lançaient des enquêtes les ministres de la Justice et des Transports ainsi que l'Agence fédérale de l'aviation américaine, la FAA. Ce qui ressort d'ores et déjà, c'est que le géant américain était pressé de répondre à la version remotorisée de l'appareil concurrent de son frère ennemi européen Airbus, au point que l'on n'a pas vu qu'on avait laissé quelques écrous informatiques mal serrés. Que Boeing soit obnubilé par la peur de perdre du terrain dans la tranche de marché où il a vendu plus de 70 % de ses avions de ligne l'an dernier, ça se comprend. Aussi, se serait-on normalement attendu à une vigilance accrue de la part des autorités de surveillance de la sécurité aérienne, d'autant plus que la FAA a la réputation d'être la plus sévère et la plus puissante de toutes. À la place, on apprend que dans un souci d'accélérer le processus de certification et d'en réduire les coûts, la FAA a fortement augmenté depuis 2005 la part de son travail accompli en sous-traitance, non seulement par des firmes externes, mais carrément par des employés des compagnies mêmes qu'elle est censée surveiller. Et Éric Desrosiers termine son article en faisant un parallèle avec le monde bancaire qui devait s'auto-réglementer en 2008 avec la crise qu'on a connue et qu'on est en train de réautoriser à s'auto-réglementer. Quelques mots pour vous parler d'un texte d'Alexandre Schild. Les bouleversements climatiques menacent plus que jamais les océans, prévient l'ONU. Les océans de la planète ont battu de nouveaux records de chaleur l'an dernier, un phénomène inquiétant qui s'ajoute à la hausse du niveau des eaux et à leur acidification, conclut un nouveau rapport de l'ONU publié jeudi. Très inquiétant. On fait une autre pause et on se retrouve de l'autre côté avec le Journal de Montréal. Restez là!
Les infirmières craquaient pour moi. Et dans la pouponnière, toutes les filles étaient en émoi. Je crée la sensation, je suis né comme ça, j'y peux rien. Je suis la perfection, le mec plus ultra masculin. Je suis la perfection, je le redis, que ce soit clair. L'ultime création, sans mauvais pli, j'ai tout pour plaire. Je fais bien des jaloux, on m'envie mes nombreux talents. Les femmes sont à mes genoux, je suis gentil, homme et charmant. J'ai trop de sensualité, de charme et d'ingéniosité. Je sais que ça peut paraître odieux, mais c'est comme ça que m'a voulu Dieu. Culturé, bien élevé, propre et proportionné, je suis le fils qu'espèrent avoir tous les parents. Culturé, bien élevé, propre et proportionné, l'homme dont toutes les femmes rêvent, un fabuleux amant. On m'adore, on m'idolâtre, on me respecte. Pas seulement pour mon corps, mais bien sûr aussi pour ma tête. Je crée des commotions, j'inspire les envies les plus folles. Je soulève les passions, je rends les rigides frivoles. Mes frères ont des sales gueules, mes sœurs ont l'air de boules de quille. Je relève à moi seul la valeur de toute ma famille. Le contraste est si grand que la rumeur est unanime. On accuse mes parents d'avoir un fils illégitime. Je sais, j'ai l'air égocentrique. Oui, mais chez moi, c'est génétique. Le jour où l'on clonera des hommes, je pourrai partager ma personne. Culturé, bien élevé, propre et proportionné, je suis le fils qu'espèrent avoir tous les parents. Culturé, bien élevé, propre et les femmes rêvent, un fabuleux amant. Ouais. C'est bien d'être parfait, mais parfois c'est lourd à porter. Ça m'écrase en effet tous ces excès de qualité. Je cultive l'impression que tout un chacun me déteste, car à la conclusion, les gens préfèrent les gens modestes. Alors, je m'imagine être petit, moche et crétin, devenir anonyme, avoir un médiocre destin. Mais cette idée m'effraie, du coup je redeviens moi-même. Prétentieux, oui c'est vrai, oui mais bon, c'est mon seul problème. J'accepte avec humilité ces talents que Dieu m'apprête. C'est mon fardeau, c'est ma pitance, que de vivre avec mon excellence. Culture est bien élevée, propre et proportionnée. Je suis le fils qu'espère avoir tous les parents. Culture est bien élevée, propre et proportionnée. L'homme dont toutes les femmes rêvent, un fabuleux amant. Culture est bien élevée, propre et proportionnée. Je suis le fils qu'espère avoir toutes les mamans. Culture est bien élevée, propre et proportionnée. L'homme dont toutes les femmes rêvent, je suis un fabuleux amant.
Culturé, bien élevé, c'était Paul-Émile Bazard.
Merci Mathieu. Et on aborde sans plus tarder le Journal de Montréal où José Legault en éditorial nous parle de quoi pensez-vous? Eh bien oui, de laïcité. Le pari de François Legault, c'est son titre. 6 ans après le douloureux épisode de la Charte des valeurs, le gouvernement Legault déposait hier son projet de loi sur la laïcité de l'État. Sur un sujet aussi houleux et émotif, le pari de François Legault est risqué, mais il est surtout calculé. Le premier ministre sait qu'il a l'appui d'une majorité de Québécois parce qu'il en a demandé le mandat aux électeurs. Sa légitimité d'agir est entière. Idem pour son recours à la clause dérogatoire des chartes canadiennes et québécoises des droits. Cette clause est tout à fait légale et constitutionnelle. Son compromis sortant enfin le crucifix du Salon Bleu est également fort stratégique. Même le ton de M. Legault est le bon. Son appel au calme est sincère, mais comme il s'agit de droits fondamentaux, il restera lettre morte. Sans surprise, hors Québec, on pousse déjà les hauts cris démagogiques habituels, racisme, xénophobie, etc. Ce qui, face au Canada anglais, permettra aussi au premier ministre de tester ses muscles nationalistes. Bref, sur le plan strictement politique, François Legault gagne sur plusieurs tableaux. La pluie routinière d'insultes venant du Rest of Canada n'est que du vent. Par contre, ce qui importe nettement plus est l'impact possible de cette éventuelle loi au sein même de la société québécoise. Depuis la Charte des valeurs, une question centrale reste en effet sans réponse. Au Québec, le port de signes religieux par certains employés de l'État serait-il vraiment un problème d'une importance telle qu'il justifierait une intervention législative pour l'interdire? Dit autrement, le port d'un signe religieux constitue-t-il un geste de prosélytisme? Menace-t-il la neutralité de l'État? Empêche-t-il un enseignant de bien faire son travail? En tout respect, la réponse à ces questions est non. Le projet de loi souffre aussi de plusieurs incohérences. Du moment où le gouvernement juge pour sa part que le port des signes religieux par certains employés, comme les enseignants, pose un problème social réel, ou encore que son interdiction s'inscrit dans la déconfessionnalisation du système scolaire, pourquoi choisir alors d'en saucissonner l'application? Les enseignants du réseau public embauchés après ce mercredi ne pourront pas en porter, mais ceux déjà à l'emploi le pourront. Dans chaque école publique, il y aura donc 2 catégories d'enseignants, ceux ayant le droit de porter un signe religieux et ceux et celles à qui ce sera interdit. Autre incohérence, les écoles privées subventionnées en seront exemptées. Le risque est que les enseignants opposés à la loi quittent le public pour le privé. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, le hijab. Jamais le port d'une kippa juive ou d'une petite croix n'avait posé de problème dans nos écoles. S'il y a débat ici comme ailleurs, c'est parce que la présence du hijab, vue par plusieurs comme un signe d'oppression des femmes, dérange. Or, nos quelques enseignantes québécoises musulmanes qui portent le voile sont des professionnelles. Le foulard qu'elles portent ne le diminue en rien. Allez, j'avais la réaction de Justin Trudeau au dépôt du projet de loi. J'ai décidé sur le champ de vous en exempter. Voilà, je me sens mieux. Je me sens tellement mieux. Crise du taxi. Des courses gratuites pour faire mal à Uber. C'est le nouveau moyen de pression des chauffeurs de taxi. Plus sympathique celui-là qu'une grève qui a notamment gravement nui au transport adapté. Donc, Dominique Lelièvre nous en parle. Les chauffeurs de taxi du Québec terminent la semaine comme ils l'ont commencé, en protestant contre le projet de loi 17 du gouvernement. Contrairement au premier moyen de pression mis en œuvre en début de semaine, il n'est pas question cette fois de faire la grève. L'industrie du taxi a plutôt choisi d'offrir des courses gratuites à sa clientèle sous certaines conditions, en espérant nuire à leur compétiteur Uber. Les chauffeurs prétendent servir à la multinationale sa propre médecine. Ils accusent Uber de s'être adonné à du dumping commercial, soit d'avoir offert un service à coût réduit lors de ses premières années d'opération, quitte à perdre de l'argent. Pour bénéficier d'une course gratuite, il faudra commander un taxi par le biais d'une application mobile. Les chauffeurs offriront ce service jusqu'à concurrence de 20 $ entre 9 h et 17 h. Pour les entreprises qui n'ont pas d'application mobile, 10% des courses téléphoniques seront gratuites, toujours jusqu'à un maximum de 20 $. Ces moyens de pression pourraient se poursuivre pendant tout le week-end, selon Félix Tremblay, porte-parole du regroupement des intermédiaires de taxi du Québec. Des gestes de perturbation ne sont cependant pas à exclure. Certains groupes de taxi souhaitent des actions plus militantes et ne participent pas à la journée dumping. Il est important pour le client de valider auprès du chauffeur avant de présumer que la course est gratuite, affirme M. Tremblay. Lundi dernier, les chauffeurs de taxi en colère contre le projet de loi 17 qui prévoit une forte déréglementation de leur travail ont paralysé plusieurs artères en roulant à très basse vitesse à Québec et à Montréal. Le ton a encore monté mardi en marge d'une rencontre entre les représentants de l'industrie et le ministre des Transports, François Bonnardel, pendant laquelle il leur a garanti que le projet de loi allait être déposé. L'énergie du désespoir, c'est dangereux, avait lâché le porte-parole de l'industrie du taxi, Abdallah Hamsi. Le ministre s'est dit sensible à leur cause et ouvert à trouver des pistes de solutions, mais a refusé de bonifier l'enveloppe d'un demi-milliard de dollars destinée à dédommager les chauffeurs, une somme que ces derniers considèrent comme très insuffisante pour couvrir la chute de la valeur du permis, puisque celui-ci ne serait plus obligatoire sous le nouveau régime. L'agence France Presse et Hugo Duchesne du Journal de Montréal nous parlent de la détresse des voyageurs québécois qui faisaient affaire avec WOW, la compagnie islandaise qui a fait faillite récemment. Des voyageurs québécois en Europe qui n'ont pu prendre l'avion pour rentrer chez eux à cause de la faillite de WOW Air se sentent floués par le voyageur à bas prix. « Nous y étions presque », fulmine Eliane Tremblay, 25 ans, qui devait s'envoler de Berlin jeudi après 5 mois à l'étranger. Mais son gros voyage d'une vie s'est terminé dans le stress en apprenant que son avion resterait cloué au sol. L'entreprise islandaise, populaire pour ses vols à bas prix vers l'Islande mais aussi vers d'autres capitales européennes, a cessé ses activités et annulé tous ses vols jeudi, laissant tomber des milliers de passagers. Le transporteur était déficitaire et des rumeurs de faillite couraient. Sur les 9 premiers mois de 2018, elle a affiché une perte avant impôt de près de 42 millions. « Si nous l'avions su juste une journée avant, nous aurions pu nous organiser sans tout le trouble, le stress », plaide Charles Reynaud, le conjoint d'Éliane Tremblay. Le couple s'est réveillé prêt à se rendre à l'aéroport avec un courriel de WOW Air annonçant la mauvaise nouvelle. Et ça leur a coûté 1 900 $ au lieu de 400 $ s'ils voulaient rentrer de Berlin. À la place de quoi, ils ont décidé de prendre le train jusqu'à Paris. Ça leur a quand même coûté 1 000 $ de plus. On en parlait un peu plus tôt, toujours à propos de la laïcité. Est-ce que je vous ai dit d'ailleurs que le projet de loi sur la laïcité avait été déposé? Alors, en parlant de laïcité, la Commission scolaire anglophone de Montréal refuse de l'appliquer, rien de moins. Patrick Bellerose en parle. La Commission scolaire English Montreal School Board promet d'ores et déjà de ne pas appliquer la loi sur la laïcité de l'État qui interdira aux futurs enseignants de porter un signe religieux. Son conseil des commissaires a adopté une résolution en ce sens mercredi soir avant même le dépôt du projet de loi 21 du ministre Simon Jolin-Barrette. La English Montreal School Board avait adopté une position similaire en 2014 pour s'opposer à la Charte des valeurs du Parti québécois. S'il y a une personne qui veut travailler pour nous, qui porte un hijab, une kippa ou une croix, notre plan est d'embaucher la meilleure personne pour la job, explique le porte-parole de la commission, Michael J. Cohen. Il souligne que les étudiants en enseignement qui portent le hijab font présentement leur stage dans des écoles de la commission scolaire. Elles sont très bien. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait leur dire que nous n'avons pas de place pour elles l'an prochain? Demande Michael J. Cohen. La loi, souligne-t-il, ne prévoit pas de sanctions et l'embauche du personnel relève des commissions scolaires et non pas du ministère de l'Éducation. La commission scolaire Sir Wilfrid Laurier a également adopté mercredi une résolution pour déclarer qu'elle s'objecte fortement au projet de loi sans aller jusqu'à promettre d'y désobéir toutefois. Tout le monde a le droit de s'exprimer. On est dans un pays inclusif. Je pense que cette loi nous fait reculer parce que ça amène la division, fait valoir le président de la commission scolaire, Paolo Galati. Un sentiment partagé par le directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, Russell Copman. C'est une mesure inutile qui sème la discorde. Il n'y a pas vraiment de problème pressant avec le port de symboles religieux dans les écoles, dit-il. Pire, l'interdiction des signes religieux à certains employés de l'État risque de nuire à l'image du Québec à l'international, estime cet ancien élu libéral. Il est possible que ce soit interprété ailleurs comme un manque de tolérance et d'ouverture, souligne M. Copman.
À 100 000 à l'heure sur la route, démaquillé sur une 750cc. On pense à rien, on parle à sa roue d'en avant. Où tu prends la cour au bout, y'a personne qui la prend. Des bras par devant, des bras par derrière. La tête en fibre de verre bleu, verre bleu. À 100 000 à l'heure sur la route. Hier est au niveau des deux carburateurs. Demain est à fleur de macadam et de caoutchouc. Le beau moment entre à avoir peur et aller jusqu'au bout. Le feu du vent, le son des deux. À 100 000 à l'heure sur la route, y a des pensées qui pardonnent pas beaucoup. Comme un peuplier donne la vie immuablement, comme il la reprend sur la 11 par son immobilité. Des bras par devant, des bras par derrière. La tête ailleurs, il fait beau. On a modéré dans un champ de blé. On l'a dévalé. À 30 000 à l'heure, on s'est trouvé à tout voir de plus près. Pendant que nos chevaux soufflaient, bonjour le jour, bonjour le ciel, bonjour les yeux fermés.
son bras dans mon cou, ma main sur ses jambes. À zéro milana, y a des pensées qui pardonnent pas beaucoup, comme un besoin de s'arrêter. Bonjour le blé, bonjour le pain, bonjour le vin de blé. Tous les trois tout nus, tous les trois ensemble. Et sous le peuplier,
route 11, Jean-Pierre Ferland.
Et je dois ici vous faire une confidence. Mathieu et moi, à deux, on a quatre roues. Et on attend impatiemment ce moment béni où on pourra remettre sur la route nos engins respectifs. Ce jour-là, on est comme des veaux qui sortent de l'étable au printemps, voyez-vous. Alors voilà, je l'ai dit. Et c'est aussi le temps de l'année où la SAQ se rappelle à nos bons souvenirs, un peu comme ils le font à nos anniversaires, voyez-vous. Ils nous souhaitent bonne fête en nous envoyant une facture. Eh bien, au mois d'avril, on nous envoie, fin mars, début avril, on nous envoie le renouvellement de plaques. Il y a un lecteur du Soleil qui s'est demandé si on payait le juste prix, parce qu'on a encore augmenté la tarification des assurances de près de 15% pour les motards. Alors, Jean-François Tlich a vérifié. Vérification faite, les motocyclistes paient-ils leur juste part? Au Québec, en vertu de notre système dit du no fault, toute personne blessée dans un accident de la route est automatiquement indemnisée, qu'elle ait été responsable ou non de l'accident. L'argent de ces dédommagements provient des renouvellements annuels, des permis de conduire et des plaques, et le tout est géré par la Société d'assurance automobile du Québec. Maintenant, l'article 151 de la loi sur l'assurance automobile oblige la SAAQ à recourir à une expertise actuarielle pour fixer le prix des permis en fonction notamment du type de véhicule. Et l'article 151.1 dit essentiellement la même chose pour les frais d'immatriculation, tout en précisant qu'ils doivent tenir compte du risque d'accident rattaché au type de véhicule. Et comme ce risque est plus élevé pour les motocyclistes, on y revient tout de suite, ils doivent donc payer davantage. Cette année, renouveler son permis de conduire coûte 57 $ pour un automobiliste sans point d'inaptitude, mais 120 $ pour un permis moto. De même, immatriculer une voiture coûte 66 $, mais entre 209 et 560 $ pour les motos, selon la puissance du moteur, et même 1362 $ pour certains modèles considérés à risque. Alors, est-ce que les motocyclistes couvrent leurs frais ou même est-ce qu'on leur charge trop, ainsi que le soupçonne M. Tremblay, ce qui peut se comprendre quand on voit la facture? Comme celui-ci l'a constaté, la SAAC ne divulgue pas volontiers ses statistiques là-dessus. Mais on peut trouver sur son site beaucoup de projections de coûts, mais pas de chiffres sur ce que les motocyclistes ont réellement apporté et coûté. Devant l'insistance du soleil, cependant, la SAAC a accepté d'en dévoiler quelques-uns. En 2016, apparemment, la dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles, les motocyclistes ont payé 131 millions de dollars en frais de permis et d'immatriculation, ce qui était un peu plus que les 130,5 millions de dollars prévus par les actuaires. Cependant, ils ont coûté 144 millions de dollars en indemnités. La différence de 13 millions est due à une détérioration du bilan routier des motocyclistes au cours des dernières années que plusieurs documents de la SAAQ mentionnent sans la chiffrer, notamment un rapport d'experts indépendants de 2018. C'est pour rembourser ce déficit de 2016 et à cause du nombre croissant d'accidents que les primes des motocyclistes augmentent maintenant. Donc, dans l'ensemble, tout indique que oui, les motocyclistes paient leur part et juste leur part. D'aucuns feront sans doute valoir que ce sont là des chiffres que la SAAC a bien voulu nous communiquer et qu'elle a peut-être trié ceux qui faisaient son affaire. C'est vrai, mais le fait est que ces statistiques sont cohérentes avec d'autres points de données, comme on dit. Le motard en moi ne peut s'empêcher de se demander ce que paie un cycliste, lui, qui a droit au même service. Allez, une nouvelle qui nous provient de Granby et qui va faire réfléchir nos corps policiers. C'est un usage, voyez-vous, quand un corps policier arrête quelqu'un de profondément ivre au volant, et évidemment, une fois qu'on lui a remis sa promesse de comparaître, ben on ne le remet pas dans son auto, forcément. Ah ben, on ne peut pas le mettre en cellule non plus, ce que vient d'apprendre le corps de police de la ville de Granby. Cynthia Laflamme de La Voix de l'Est nous en parle. Détention d'un conducteur pour qu'il dégrise, une pratique abusive à corriger. Placer un automobiliste en état d'ébriété derrière les barreaux uniquement afin qu'il dégrise afin de le libérer représente une pratique policière abusive selon un récent jugement de la Cour du Québec. Le service de police de Granby a été invité à revoir ses pratiques en ce sens par le juge de la Cour du Québec, Éric Van Chestein, qui a acquitté un conducteur au début du mois de mars après avoir déclaré sa détention comme étant illégale. Le juge en effet conclut que les résultats de l'alcootest d'un conducteur qui affichait pourtant un taux d'alcoolémie atteignant près du double de la limite permise parce qu'il a été détenu pendant plus de 3 heures de façon illégale. On a donc écarté le résultat de l'alcootest et acquitté le détenu. Dans notre société libre et démocratique, il est inquiétant de voir que le seul endroit où des policiers peuvent garder une personne pour sa sécurité est une cellule verrouillée. Après avoir effectué une fouille dans le cas où cette personne ne représente aucun danger pour quiconque, qu'elle est calme et coopérative, écrit le juge Van Chestein dans sa décision. Alors, il est probable qu'une cellule des postes de police de la province s'appellera dorénavant salle de dégrisement, la porte va fermer un tout petit peu moins et ça devrait passer. Le soleil, oui, nous parle d'autodétermination. L'Assemblée nationale réplique à Ottawa. Les élus de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité jeudi une motion du Parti québécois réaffirmant le droit des Québécois à l'autodétermination. Cette motion visait à répliquer au gouvernement fédéral, dont les avocats ont déposé mercredi un mémoire au sujet de la loi 99 à la Cour d'appel du Québec. Ceux-ci mentionnent dans le document que l'indépendance du Québec serait inconstitutionnelle sans l'assentiment d'une majorité de provinces. Le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, a demandé à ce que l'Assemblée nationale rappelle qu'aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée nationale, ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois de disposer lui-même de son avenir. Par cette résolution, les élus ont ainsi condamné la volonté du fédéral de brimer le droit inaliénable du peuple québécois de choisir librement le statut politique du Québec en le rendant conditionnel à un amendement à la Constitution canadienne. Après avoir affirmé que le Québec peut prendre ses propres décisions, la ministre de la Justice Sonia Lebel a voulu y aller de prudence dans ses propos lorsqu'elle a été interpellée par le député solidaire Sol Zanetti à ce sujet. Le procureur général du Québec que je représente défend avec acharnement la chose suivante. Le droit du Québec d'être maître de son destin et de contrôler ses champs de compétences, a-t-elle lancé. Allez, je vous parlais la semaine dernière de ces trois aventuriers qui prétendaient monter sur une banquise et descendre le fleuve Saint-Laurent depuis Trois-Rivières jusqu'à Québec. Coup de théâtre pour Opération Banquise. Les trois aventuriers qui souhaitaient passer 36 heures sur une banquise à la dérive sur le fleuve Saint-Laurent ont finalement dû passer la nuit à terre. Ils ont été contraints de prendre cette décision en raison de l'arrêt en fin de journée du trafic maritime sur la voie navigable. Et ils ont commenté en disant « Ben, les bateaux, ils peuvent changer de chemin, nous autres, on peut pas ».
Deux sandwichs, les Hey Babies.
Avant d'aborder les nouvelles qui nous viennent du Canada hors Québec, donc un mot pour vous parler d'une dépêche qui vient de tomber. Theresa May vient de perdre pour la troisième fois un vote sur une tentative donc pour faire adopter son traité pour le Brexit. On le sait, il y a une partie des députés britanniques qui ne veut rien savoir du Brexit. Il y a une autre partie qui ne veut rien savoir d'un traité qui ferait un accord avec l'Union européenne et qui, en quelque sorte, reviendrait à les garder un tout petit peu à l'intérieur de l'Union européenne. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Les Européens, eux autres, sont très concernés par l'Irlande, puisque l'Irlande, le pays indépendant, l'Irlande du Sud, si vous me passez l'expression, est un membre de l'Union européenne, alors que l'Ulster, qui est rattachée au Royaume-Uni, elle, fait partie donc du Royaume-Uni, et on ne veut pas que cette frontière-là devienne problématique. Bref, on se dirige au Royaume-Uni vers un Brexit sauvage, sans accord, si vous me passez l'expression, du jour au lendemain, ce qui risque d'être très brutal pour l'économie britannique, européenne et irlandaise. Et pour Mme May elle-même, bon, on peut parler d'un avenir politique fortement compromis. Voilà, elle qui avait déjà promis de partir après le Brexit, si on lui accordait ce vote qui était, que les Européens avaient exigé pour lui accorder un délai. Bref, c'est pas fait, ça va mal, c'est pas réglé, l'insécurité plane sur le Royaume-Uni, pauvre Europe, voilà. Alors, sans plus attendre, on se dirige à London, où une mère se bat pour que son fils autiste ait accès à des services en français. Ça nous vient du journal L'Action. « Je cherche des services pour le petit depuis 2 ans », raconte Jasmine Maynard de London. Chercher et se battre avec le système fait désormais partie du quotidien de la mère de Théo. Un enfant de 6 ans qui est atteint d'autisme a besoin de services spécialisés. Or, les services en français sont une rareté pour les jeunes autistes ontariens et les obstacles administratifs pour les obtenir sont nombreux. Il ne s'agit pas que d'une question pratique, mais aussi de santé et de qualité de vie. L'autisme est un trouble du développement affectant le comportement, la communication et les interactions sociales. D'autres symptômes peuvent se manifester, tels que l'anxiété et des retards d'apprentissage. Heureusement, il existe des thérapies menant à un meilleur contrôle de soi et à une amélioration des relations avec autrui, ce qui permet à la personne autiste de gagner en autonomie. Or, ces thérapies sont d'autant plus efficaces lorsqu'elles sont suivies en bas âge. C'est justement ce qui inquiète Mme Maynard, qui voit le temps passer sans que son fils ait accès aux interventions intensives dont il a besoin et qui pourraient atténuer les effets de l'autisme. Non seulement Théo a-t-il besoin de services en français, puisque c'est la seule langue qu'il comprend, mais les thérapies doivent idéalement, dans son cas, être offertes au sein d'un groupe francophone, les enfants autistes ayant besoin de socialiser pour développer leur capacité de communiquer. Le Thames Valley Children's Centre, dont les programmes s'adressent aux jeunes aux prises avec des limitations diverses, a pu offrir des services de base, mais le fils de Jasmine Maynard a besoin d'aller plus loin dans son cheminement thérapeutique. L'organisme Autisme Ontario a confirmé à Mme Maynard qu'aucun service en français n'existe à cet égard dans le Sud-Ouest et Toronto Autism Services, une division d'un programme ontarien, a aussi attesté de leur inexistence dans la ville reine. Ne restait donc plus qu'à chercher encore plus loin, et il semblerait que ce ne soit qu'à Ottawa que cette thérapie soit offerte pour les francophones. Il y a cependant un hic. Si Mme Maynard déménagerait dans la capitale avec Théo, cela représenterait une rupture de l'entente encadrant la garde de son fils qu'elle partage avec son ex-conjoint, et c'est précisément ce que refuse la Cour supérieure de l'Ontario. En dépit de toutes ces démarches pour obtenir des services en français et la confirmation reçue d'organismes compétents en la matière qu'ils sont inaccessibles dans sa région, Mme Maynard s'est fait demander davantage de preuves par la Cour. Apparemment, le juge priorise sa relation avec le père plutôt que ses droits linguistiques, résume-t-elle en parlant de son fils. Il suffirait simplement que le dossier de ce dernier soit transféré à l'hôpital d'Ottawa où est offerte la thérapie pour qu'il puisse en bénéficier, mais ce ne sera pas avant que sa mère ait fait appel de la décision du juge et qu'elle ait été en mesure, espère-t-elle, de la faire renverser. Jasmine Maynard a multiplié les recours depuis 2 ans. Elle s'est confiée à sa députée provinciale, à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et au commissariat aux services en français. Entre-temps, elle ne peut que se désoler en constatant que son fils passe à côté d'une thérapie qui pourrait grandement l'aider à une étape cruciale de son développement et remédie du mieux qu'elle peut à ce manque. Ce n'est pas seulement Théo. Imaginez tous les enfants qui sont dans la même situation. Il doit y avoir des parents qui ont abandonné sa tristotelle. En attendant mieux, Jasmine Maynard poursuit son combat et espère que son cas attirera l'attention des décideurs publics sur les dysfonctionnements du système, en particulier en ce qui touche au sort des francophones. Dans le courrier de la Nouvelle-Écosse, Richard Landry signe un texte intitulé « À la découverte des premières communautés acadiennes de la Louisiane avec les archives espagnoles de Cuba ». Pointe de l'Église. À partir de documents provenant des archives de CVI en Espagne, le professeur Clint Bruce de l'Université Sainte-Anne a animé un atelier intitulé « À la découverte des premières communautés acadiennes de Louisiane ». Les documents espagnols utilisés pour l'activité de découverte sont tirés des originaux rédigés sur place en Louisiane dans les années 1752 à 1805. Les originaux sont maintenant rendus à Séville en passant par Cuba qui les a remis à l'Espagne. Les participants ont d'abord exploré des recensements effectués dans les régions acadiennes de la Louisiane, surtout du côté de Cabanos, l'actuelle paroisse Saint-Jacques. Cette région était autrefois connue comme le comté d'Acadie, sur la côte des Acadiens. On y retrouve plusieurs noms acadiens qui existent encore aujourd'hui en Acadie et en Louisiane. Il y avait aussi la région du comté des Attakapas autour de Lafayette. Quand les Acadiens sont arrivés en Louisiane dès 1764, la Louisiane était devenue colonie espagnole après avoir été peuplée par la France, si bien que la plupart des documents étaient rédigés en français. Les documents espagnols qui se trouvent maintenant à Séville ont été pour la plupart photographiés et rendus disponibles aux universités de la Louisiane surtout. Mélanie Joly a organisé une table ronde à Dartmouth sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, un texte de Norbert Leblanc. La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a annoncé une série de consultations sur la loi sur les langues officielles dans le but de la moderniser 50 ans après son adoption en 1969. Madame Joly a organisé ces rencontres afin de donner la parole aux Canadiennes et Canadiens sur les grands enjeux qui influencent sur la pérennité des langues officielles au pays et sur la vitalité des communautés linguistiques. L'objectif est de renforcer la loi pour qu'elle réponde aux besoins des citoyennes et des citoyens au cours des décennies à venir. La rencontre a eu lieu à la salle Avery du centre Fairbanks, à Dartmouth. Les conversations ont eu lieu de 9h10 à 10h30 et plus de 30 participants ont participé à un partage d'informations sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Au nom de la ministre Mélanie Joly, Daryl Samson, député fédéral de Sackville-Preston-Chezett-Cook, a souhaité la bienvenue aux participants des différentes parties de la province. M. Samson a parlé de sa fierté pour sa langue et sa culture, et il a ajouté que le temps était propice pour avoir une discussion sur les langues officielles. M. Samson a informé le groupe que nous n'avons pas atteint nos objectifs dans le dossier de l'immigration francophone. M. Samson a ensuite présenté Sarah Boily, qui a agi comme facilitatrice dans les discussions. Les participants à cette table ronde ont été invités à se prononcer sur les thématiques suivantes. Les langues officielles et le Canada à l'ère numérique, la promotion de la culture et du bilinguisme, des institutions fédérales qui incarnent les langues officielles et la place du Canada dans le monde, et la mobilisation, le développement et l'épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Avant d'ouvrir les discussions, Mme Boily a annoncé que le ministère du Patrimoine canadien organisait 5 forums à travers le pays et une dizaine de tables rondes dans les provinces et territoires canadiens. Alors, toujours dans les pages du courrier de la Nouvelle-Écosse, projet de musique au Centre communautaire francophone de Truro. Le Centre communautaire francophone de Truro a reçu deux projets de Novashko Shaw Seniors et de Nouveau Horizon, oui, pour des ateliers destinés à nos jeunes musiciens afin de créer un spectacle pouvant être présenté dans les foyers pour personnes âgées. Les formations Route 102 et Les Étoiles ont livré 15 spectacles au total, touchant environ 400 personnes âgées dans leur maison. Il s'agissait alors de parties de cuisine et dans des foyers pour personnes âgées. Ce projet fantastique a été apprécié par toutes les personnes impliquées. Un grand merci à Rick Hills et Weldon Boudreau pour leur savoir-faire en enseignement de la musique.
Joey se lève et court la nuit sur les trottoirs de sa banlieue. Ses parents sont endormis, Joey veut pas finir comme eux. Le jour, ses manches longues cachent les entailles sur ses bras. La nuit, il court torse nu, la nuit ne le sermonne pas. Joey se lève et court la nuit sur les trottoirs plus blancs que blancs. Jamais rien de nouveau dans son nouveau développement. Toutes les rues ont des noms de fleurs, des fleurs qui poussent ailleurs. Tous les bruits trompent l'ennui et l'ennui trompe la peur. Rien à foutre de la faune, parti boire et danser. Chacun tenant son iPhone comme on tient une bouée. Joey court à bout portant, portant le rêve à bout de bras. Les bras de quelqu'un qui l'atteint. Viens-t'en Joey, je te lâcherai pas. Des humains. Le wagon d'hommes et de femmes l'emprisonne doucement. Le corps à corps des kidam le berce dans son mouvement. Puis la vie se rallume dans son ventre et dans ses mains. Il jaillit dans l'écume des lumières du matin. Tout comme un million d'âmes marchant autour de lui, il
Il protège sa petite flamme sous les bourrasques de pluie. Tout comme un million d'âmes marchant autour de lui. Il protège sa petite flamme sous les bourrasques de pluie.
Émile Procloutier, c'était la chanson Joey la nuit.
Une excellente nouvelle pour les tout-petits, les tout-petites et je dirais les quarantenaires. Passepartout sera de retour à l'automne. Effectivement, Passepartout, Passe-Carreau, Passe-Montagne, Canel, Pruneau et toute la tribu ont fait un tel tabac à la télé cet hiver qu'on a confirmé à Télé-Québec qu'il y aura une saison 2. Alors, bravo, bravo, bravo pour les enfants, bravo aux artisans. On continue en parlant de la vie en gros. Deux poids, deux mesures, un texte de Dominique Tardif qui nous parle de personnes obèses. Pas personnes en situation de surpoids, encore moins personnes souffrant d'embonpoint. Le journaliste Michael Bergeron choisit d'arracher des mains et de la bouche de ceux qui l'ont chargé de venin le mot « gros ». Il était plus que temps de leur reprendre ce qui lui appartient en propre. Cette réappropriation n'efface pas les nombreuses cicatrices liées à toutes les fois où ce mot a servi à me ridiculiser, à m'insulter, à me diminuer, écrit-il dans le second chapitre de son essai « La vie en gros », regard sur la société et le poids. Mais il y a un certain plaisir à faire un pied de nez à ces personnes qui l'emploient comme une injure. Le seul bémol que j'apporterai, c'est que je sais qu'il y a des personnes grosses qui sont encore insultées par ce mot, précise-t-il. En entrevue, il aurait évidemment horreur de les blesser, mais j'encourage les gens à l'employer parce que tout le vocabulaire autour du poids est négatif. Le mot qui est le plus neutre, c'est « gros », parce qu'il est, à la base, simplement descriptif. À la fois pamphlet contre la grossophobie, plaidoyer pour la diversité corporelle, journal du dégoût de soi d'un trentenaire n'ayant jamais vraiment connu la minceur et inventaire des préjugés qui suivent les personnes grosses, la vie en gros est en son cœur le récit d'un paradoxe, celui d'une existence à la fois vécue dans l'invisibilité et dans l'impossibilité d'échapper au regard d'autrui. N'être que très rarement objet de désir, mais être toisé par la caissière d'un dépanneur où l'on a été délégué par les amis pour acheter des croustilles et des boissons gazeuses. J'ai longtemps pensé que c'était moi le problème, et que tant que je ne perdrais pas de poids, je ne pourrais pas faire autre chose dans la vie, que je ne pourrais pas développer une carrière, confie celui qui œuvre dans la salle de rédaction du Soleil et qui tient une chronique dans Le Voir. Je pensais que j'étais un fardeau pour mes amis, même s'ils ne m'ont jamais fait sentir comme ça. Ça a été là toute ma vie, et ça revient encore parfois. Pas à temps plein, mais il y a des occasions qui font remonter ça à la surface. Il y a tellement eu d'occasions où j'ai eu l'impression que je ne valais rien, que j'ai fini par l'intérioriser, cette haine. Il était une fois un homme de 36 ans qui aimerait se voir davantage dans le miroir que lui tendent les médias et la culture populaire, mais qui aimerait aussi qu'on cesse enfin de rire sans vergogne de ceux qui se sentent déjà de trop. Michael Bergeron soupire lorsque nous lui décrivons la parodie de Gaétan Barrette en pachyderme éternellement à bout de souffle que propose une émission de radio satirique qu'il ne connaissait pas. Je pensais qu'on peut rire de tout. Je pense qu'il y a de bonnes blagues à faire sur le poids de manière générale. Mais le bruit d'un éléphant ou d'un camion qui recule, c'est tellement usé. On dirait qu'on pense que c'est en humiliant un gros qu'on va le pousser à se prendre en main. Ça arrive tellement souvent qu'on dénigre des gros devant moi sans penser que je pourrais me sentir visé. C'est comme si on faisait des blagues d'un racisme incroyable devant des Noirs en pensant les faire rire. Allez, puisqu'on en a des considérations esthétiques, Chantal Guy dans La Presse nous parle d'un livre, Un amour, être le beau de quelqu'un. Dans la littérature en général, les laids, les gros, les pauvres et les vieux n'ont pas de vie sexuelle, en éternel exclu de l'amour. J'écris de chez les moches, pour les moches, a déjà dit Virginie Despentes en réaction aux normes écrasantes de la société. Un amour de Louis-Michel Lemonde, publié dans la collection Liberté Grande de Boréal, n'est pas un récit parfait, mais il raconte quelque chose d'extrêmement émouvant, la rencontre foudroyante de deux solitudes, et ça commence par une méprise. Dans un bar gay du village, le narrateur complexé tombe dans l'œil de Jean-Louis qu'il pense beaucoup plus jeune que Louis. Que lui, oui. De se voir jeune et beau dans l'œil de ce vieux gay laid l'excite, si bien que le quarantenaire se rajeunit 10 ans encore et pousse l'audace jusqu'à lui demander de l'argent pour la baise, réalisant son singulier fantasme de prostitution qui l'habitait. Avec mon client, qui m'a admiré d'emblée, l'extraordinaire possibilité de se faire des idées m'est offerte sur un plateau d'argent. Or, contre toute attente, c'est une véritable histoire d'amour qui va se tisser entre ces deux-là et cela sur des années. En dépit du fait que Jean-Louis est un être caractériel, grippe-sous, plein de préjugés, très adroit, anglophile, antinationaliste, au contraire du narrateur, pas très sexy, avec quelques problèmes érectiles, qui vit dans une triste piole et qui a les poumons ravagés par la cigarette. Et à ce livre, on accole 3,5 étoiles. Allez, il nous reste à peine quelques minutes pour aborder quelques nouvelles brèves et peut-être un peu plus légères. Ben légère, enfin, un autobus scolaire, est-ce que c'est léger? Bien, sachez qu'à Montréal, il y a un autobus scolaire qui est tombé dans un nid de poule, littéralement, c'est-à-dire il ne pouvait plus bouger, il a fallu une dépanneuse pour le sortir de là. Alors, c'est tout à fait montréalais, ça. Un parent sur 7 regrette le nom qu'il a donné à son enfant, ce que rapporte Raphaël Lavoie. C'est un sujet de réflexion sérieux. Regrettez-vous d'avoir nommé votre fille Shiloh en l'honneur de Brad et Angelina? Selon un sondage britannique, vous n'êtes pas seul. Lorsqu'un parent sur 7 y indique être insatisfait du nom qu'il a donné à sa progéniture, ainsi, pas moins de 25% des répondants insatisfaits affirment qu'ils n'aiment plus le prénom de leur enfant, car celui-ci est désormais trop populaire auprès des autres parents, tandis que 10% sont désarçonnés qu'une personne qui porte le même nom que leur rejeton soit devenue célèbre. Allez, le cauchemar de tous les hommes. Un homme se fait circoncire par erreur alors qu'il était à l'hôpital pour un examen de la vessie, Frédéric Guindon le rapporte dans le Journal de Montréal. En raison d'un mélange de documents médicaux, un pauvre Anglais a subi l'ablation du prépuce alors qu'il s'était rendu dans un centre hospitalier pour un examen de la vessie. C'est en septembre dernier au University Hospital of Leicester, l'hôpital universitaire de Leicester, dans le centre de l'Angleterre, que s'est produite l'erreur médicale. Selon ce qu'a rapporté le Daily Mail, un homme non identifié a subi une prépucectomie, c'est comme ça que ça s'appelle, après que les chirurgiens l'eurent confondu avec un autre patient. On ne respecte plus rien dans nos sociétés. Il y a jusqu'au pape qui ne veut plus que l'on baise son anneau. Le pape veut éviter de propager des microbes avec son anneau. L'agence France-Presse à la Cité du Vatican le rapporte. Le pape, qui avait soustrait ostensiblement sa main droite lundi à une longue file de fidèles, cherchant avec insistance à embrasser son anneau, a expliqué avoir agi par crainte de propager des microbes entre fidèles, a précisé jeudi le Vatican. Et voilà qui termine cette édition du 29 mars 2019 du quotidien des quotidiens. Je remercie Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche. Je vous donne rendez-vous mardi. Hélène, elle, sera de retour lundi. Et merci surtout à vous d'avoir été avec nous jusqu'ici. À plus.